Bonjour mon ami. Saviez-vous que l'un des évangiles rapporte une prière extraordinaire et très longue que notre Seigneur Jésus a prononcée? Nous avons un aperçu de sa conversation avec le Père et elle regorge de vérité. Le pasteur Harrison Conley, notre fils, qui est le pasteur principal ici à l'église Cottonwood, a enseigné à partir de cette prière de Jésus. Je vous conseille d'attacher votre ceinture. Préparez-vous, c'est puissant. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses.
Si vous avez votre Bible, ouvrez-la en Jean 17. Jean, chapitre 17. Je tiens à vous avertir que ce que nous allons lire est un chapitre vraiment unique. J'oserais même dire que c'est un chapitre sans pareil dans toutes les Écritures. Je dis cela parce que nous y trouvons une prière singulière adressée au Père par Jésus. Outre quelques brèves déclarations et courtes prières, c'est en fait la seule prière approfondie et longue de Jésus qui nous soit rapportée dans tout le Nouveau Testament. Jésus prie pour trois choses distinctes. Premièrement, il prie pour lui-même. Nous le voyons dans les cinq premiers versets. Deuxièmement, Jésus prie pour ses disciples. Nous le voyons dans les versets 6 à 19. Enfin, il se met à prier pour nous. J'aime beaucoup cela. Il prie pour tous ceux qui viendront. C'est dans les versets 20 à 26. Ce matin, je voudrais parcourir le texte section par section. Je voudrais souligner quelques points. Je voudrais parler du thème principal que nous voyons dans chaque section. Je crois que chacun de ces thèmes va nous enseigner quelque chose d'unique sur le Sauveur et son cœur pour lui-même, son cœur et son désir pour ses disciples, et son cœur et son désir pour son peuple. Voici la première section. Encore une fois, les versets 1 à 5. Nous voyons que Jésus prie pour lui-même. Le thème principal de ces premiers versets est la dépendance de Jésus envers le Père pour que celui-ci accomplisse ses promesses. Vous remarquerez qu'au verset 1, Jésus commence en disant « Père, l'heure est venue. L'heure est venue. » Cela fait bien sûr référence au plan de Dieu pour racheter l'humanité. C'est un plan qui avait été mis en place avant la fondation du monde. Le plan est le suivant. Dieu le Fils s'incarnerait et entrerait dans sa création. Il deviendrait un homme, Jésus, afin de sauver les hommes de leurs péchés. Jusqu'à ce moment de la vie et du ministère de Jésus, nous l'avons entendu dire à maintes reprises, « Mon heure n'est pas encore venue. L'heure n'est pas encore venue. » Il le dit en Jean 2, nous le voyons en Jean 7, nous le voyons également en Jean 8. Maintenant, en Jean 17, nous sommes au seuil du plan expiatoire de Dieu pour le salut. Dans environ 12 heures, Jésus sera pendu à une croix en tant que substitut pour le péché. Jésus dit au Père, « Père, l'heure est venue. Le moment est venu pour moi d'achever l'œuvre que tu m'as confiée. L'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Jésus prie pour que le Père révèle la gloire de son Fils. Cette requête de Jésus n'est pas égoïste. Au contraire, chaque fois que Jésus dit cela, il regarde la croix et dit, « Dieu, je veux que ta gloire se manifeste à travers cet acte. » Lorsque Jésus prie cela, il est important de savoir et de comprendre qu'il n'est pas en mode survie. Il ne panique pas. Il n'a pas peur de ce qui va arriver. Au contraire, ses yeux sont levés vers le ciel. Il voit un plan plus grand, il a une vision plus large. Il voit au-delà de la croix et il est déterminé à glorifier Dieu le Père à travers elle. Aujourd'hui, le monde regarde la croix et ne voit pas la gloire. Le monde regarde la croix et y voit la honte, la mort, la défaite et la douleur. Jésus regarde la croix et la voit comme la manifestation ultime, l'expression ultime de la gloire de Dieu. Jésus savait et comprenait que sa vie et son but étaient entre les mains du Père. Il s'est donc aligné pleinement sur la volonté et le timing du Père. D'où l'expression « l'heure est venue ». Réfléchissez-y un instant. Alors que nous y réfléchissons, je voudrais vous poser une question. Dans notre vie quotidienne, sommes-nous en phase avec le timing et le plan de Dieu? Lui faisons-nous confiance, même lorsque cela est difficile? Car Jésus l'a fait. Permettez-moi également de vous demander, dans notre vie quotidienne, lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous agissons, dans quelle mesure nous soucions-nous de la gloire de Dieu, plutôt que de rechercher notre propre gloire? Que ce soit dans le domaine de notre carrière, dans celui de nos relations, ou dans celui de nos ambitions personnelles. Si Jésus a prié et désiré que le Père soit glorifié en lui, cela ne devrait-il pas être également notre prière et notre grand désir? Il a prié, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais attirer votre attention sur une autre phrase. En Jean 17, 3, Jésus donne la définition la plus claire que nous ayons de la vie éternelle. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Saviez-vous que si je dois changer l'huile de ma voiture, je suis capable de regarder 30 vidéos différentes sur YouTube pour savoir comment faire? Je peux mémoriser ce que les mécaniciens me disent de faire. Vous pourriez me demander, « Harrison, sais-tu comment changer l'huile de ta voiture ?» Je répondrais, « Oui, en théorie. » Mais tant que je ne me suis pas sali les mains, tant que je n'ai pas retiré l'ancien filtre, vidangé l'ancienne huile, installé le nouveau filtre et versé la nouvelle huile, tant que je ne me suis pas sali les mains, je ne sais pas vraiment comment changer l'huile de ma voiture. Ce type de connaissance est de nature expérientielle. Peut-être devrais-je m'arrêter là un instant et vous demander, le connaissez-vous vraiment? Connaissez-vous le Père? Connaissez-vous son Fils, Jésus, qu'il a envoyé? Car écoutez-moi bien, il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. Il a déclaré, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Personne ne connaît la vie éternelle sans moi. » Si vous ne le connaissez pas, ma plus grande prière pour vous est que, à travers l'enseignement de la parole de Dieu, le Saint-Esprit révèle à votre cœur votre besoin d'un Sauveur, et que vous remettiez votre vie entre les mains aimantes de notre Sauveur, Jésus, et que vous arriviez à le connaître véritablement. La Bible nous dit en Ecclésiaste 3 que Dieu a mis dans le cœur de chaque personne la pensée de l'éternité. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'au fond de lui-même, chaque être humain aspire à être connu, à être connu par son Créateur. Un cri profond qui dit, « Il doit y avoir plus dans cette vie que ce qui se trouve devant moi. Il doit y avoir plus dans cette vie que de vivre 90 ans sur une planète, à respirer de l'oxygène. Il doit y avoir plus. » Ce plus, c'est connaître Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Passons maintenant à la deuxième partie de cette prière extraordinaire. Ici, Jésus tourne son attention et se concentre sur ses disciples. Encore une fois, nous voyons cela dans les versets 6 à 19. Le thème principal ici est que le Père gardera les disciples, qu'il les protégera. C'est une requête pour que les disciples bénéficient de la provision, de la protection et de la force du Père. Cela est personnifié en Jean 17, 15. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi. Jésus prie, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Ne vous y trompez pas, mon ami. Nous avons un ennemi, le mal. L'ennemi de notre âme, le diable. La Bible nous dit en 1 Jean 5 que le monde entier est sous l'emprise, sous la puissance du mauvais, du mal. Remarquez que lorsque Jésus prie ici en Jean 17, il ne prie pas pour que le Père retire les disciples du monde. Il ne dit pas, « Père, retire-les afin qu'ils n'aient pas à subir la pression et la douleur. » Il ne dit pas, « Père, retire-les afin qu'ils puissent échapper à la persécution qui s'annonce. » Il dit, « Père, préserve-les. Préserve-les. » Pendant que Jésus était sur terre, il avait gardé ses disciples. Mais il se prépare maintenant à accomplir sa mission et à retourner au ciel. Il sait que dès qu'il partira, l'ennemi de leur âme va s'en prendre à eux. Sachant comment l'ennemi va s'en prendre à eux, il a prié de manière préventive pour que le Père garde ses disciples et leur fournisse les outils nécessaires pour combattre l'attaque de l'ennemi. Jésus prie en fait pour deux choses spécifiques afin que le Père les garde de deux manières. Premièrement, au verset 11, il dit « Père, garde-les en ton nom ». Au verset 17, il dit « Père, consacre-les ou garde-les par ta vérité. Ta parole est la vérité ». Jésus prie pour que les disciples soient gardés en son nom et par la parole, par la vérité. Quand Jésus prie « Père, garde-les en ton nom », il parle de la personne, il parle des attributs et du caractère de Dieu. Toutes ces choses sont désignées, elles sont révélées par le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, pensez aux différents noms que Dieu a utilisés et donnés à son peuple pour décrire sa force, sa puissance, ses attributs, sa nature et son caractère. Nous en avons chanté certains ce matin. Yahvé Jiré signifie « l'Éternel pourvoira ». Yahvé Rapha nous rappelle que l'Éternel est notre guérisseur. Yahvé Shalom, Dieu notre paix. Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Et ainsi de suite. Les noms de Dieu révèlent sa personne, ses attributs, sa force et son caractère. Jésus prie donc, « Père, garde-les en ton nom, garde-les en qui tu es, garde-les en ce que tu es, garde-les dans le caractère de ton cœur, garde-les dans ton amour. » Réfléchissez à cette expression, comme ceci. La saison de football américain vient de commencer. Quelle que soit l'équipe parmi les 32 équipes de la NFL que vous soutenez, chacune de ces équipes a un nom. Ce nom est inscrit sur le devant du maillot de chaque joueur. Chacun de ces joueurs vient d'un endroit différent. Ils ont tous des parcours et des expériences différents. Ils ont tous des compétences et des rôles différents au sein de l'équipe. Mais qu'est-ce qui les unit? C'est le nom inscrit sur le devant de leur maillot. Ils ne s'apprécient peut-être même pas. Ils ne se fréquentent peut-être pas en dehors du terrain, mais sur le terrain, ils sont sous un même nom. Ils portent ce nom et cela crée l'unité. Ils ne font plus qu'un. En ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, l'ennemi de notre âme, le mauvais, le diable, n'aimerait rien de plus que de voir le corps de Christ divisé. Mais écoutez-moi, Jésus a prié, « Père, garde-les en ton nom. » Nous venons tous d'endroits différents. Nous avons tous des expériences et des origines différentes. Nous avons des niveaux d'éducation différents. Certains d'entre nous ont peut-être même une couleur de peau différente. Mais nous partageons tous le même nom. C'est le nom de Christ. Et c'est ce nom qui nous unit. Le malin ne souhaite rien de plus que de provoquer la division. Au lieu de se concentrer sur le nom unique de Christ, on se concentre sur le nom d'un individu ou d'une organisation. Il cherche à diviser les croyants en différents groupes. Regardez le monde qui nous entoure. L'ennemi divise les gens en fonction de leur groupe, que ce soit leur race, leur sexe, leur affiliation politique ou même leur statut économique. L'ennemi essaie d'introduire cela dans l'Église, car il sait que s'il parvient à diviser l'Église en groupes, s'il parvient à diviser le corps, il pourra semer le chaos. Écoutez, la première chose que le malin, la première chose que l'ennemi de notre âme redoute, c'est une Église unifiée et des disciples unifiés. Lorsque nous disons, plus que toute autre chose, la première chose qui me définit, c'est le nom de Christ. Plus que ma nation d'origine, plus que la couleur de ma peau, plus que mes préférences politiques, avant tout cela, je suis chrétien et j'appartiens au nom de Jésus. Malheureusement, lorsque nous regardons la chrétienté aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Église avec un grand E, dans certains cas, il semble que ces choses aient été inversées. Certains se soucient davantage de leur nation d'origine, de la couleur de peau ou de leur préférence politique que du nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque je regarde cette assemblée, lorsque je regarde cette famille et que je vois l'unité au milieu d'une grande diversité, cela me remplit d'une bouffée d'air frais. Je regarde notre Église et je me dis, c'est l'accomplissement de la prière de Jésus lorsqu'il a dit, « Père, garde-les en ton nom. » Ensuite, nous arrivons à la dernière partie. La troisième partie de cette prière extraordinaire et sacrée, les versets 20 à 26. Ici, Jésus regarde à travers le temps et il prie pour nous. Je trouve cela extraordinaire. Il prie pour nous, il prie pour tous ceux qui viendront à la foi grâce à la parole et au témoignage des disciples. Lorsque vous lisez cela, comprenez qu'il prie pour vous et qu'il prie pour moi. Personnellement, je suis très réconforté par le fait que Jésus ait prié pour moi. Voici la meilleure partie. Le moment où Jésus a prié pour nous n'était qu'un prélude à son ministère de prière qu'il poursuit encore aujourd'hui. Jésus continue d'accomplir sa fonction de prière pour son peuple. C'est ce qu'il fait en ce moment même. C'est ce qu'il fait à l'instant présent. Il pense à vous et il prie pour vous. Il pense à cette Église et il prie pour nous. Jésus n'est pas affalé dans son canapé au ciel, les genoux couverts de nachos, en train de regarder un match de football. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Il est assis, mais il est assis à la droite du Père. Savez-vous ce qu'il fait? Il prie. Il prie pour vous, il prie pour moi, il intercède pour son peuple. Je le sais parce qu'Hébreux 7:25 parle de Jésus comme notre grand prêtre céleste. Il est écrit qu'il est toujours vivant pour intercéder en faveur de son peuple. Il est toujours vivant pour intercéder en faveur de son peuple. Il prie pour nous. Peut-être avez-vous une mère ou une grand-mère qui prie et vous en êtes reconnaissant. Peut-être que certains se disent, « Je ne pense pas que quelqu'un prie pour moi. » Sachez ceci, si vous êtes un enfant de Dieu, Jésus prie pour vous. Il n'y a personne d'autre que je préférerais voir prier pour moi. Si vous voulez savoir ce qu'il prie pour vous, si vous voulez connaître son cœur à votre égard, alors prêtez attention à ce qu'il dit dans les versets suivants, car il nous donne une excellente indication de son grand désir pour son peuple. Voici la première chose pour laquelle il prie pour nous. C'est la première chose que nous voyons à la fin de ce chapitre. Il prie pour l'unité. Le thème principal est le suivant, que vous et moi, que son Église, que son corps, que nous soyons un. Nous le voyons maintes et maintes fois, et cela devient presque difficile à lire parce qu'il le répète tellement de fois, « Père, je prie pour qu'ils soient un. » Regardez le verset 20, Jésus dit, « Père, je ne prie pas pour eux seulement, les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous, toi, moi, l'Église, soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Mon temps est écoulé, alors je vais vous donner quelques phrases à méditer ce matin. En examinant cette dernière section, nous devons remarquer que Jésus prie pour l'unité, et non pour l'uniformité. L'unité, pas l'uniformité. Je pense que cela titille beaucoup de chrétiens, car lorsqu'ils regardent le paysage de la chrétienté, ils se disent « Cette prière est ratée. Il n'y a pas beaucoup d'unité dans le corps de Christ. Nous avons tellement de dénominations et de pratiques différentes. Nous chantons tellement de chants différents et n'adhérons pas tous exactement au même point de doctrine. Nous avons raté notre coup. » Écoutez, ce que vous venez de décrire n'est pas de l'unité. C'est de l'uniformité, où tout le monde voit, parle, agit et dit la même chose. Ce n'est pas ce pourquoi Jésus a prié. Jésus a prié pour l'unité. Remarquez qu'il prie, « Père, je prie pour qu'ils soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Le Père et le Fils, deux personnes uniques, deux expressions et fonctions uniques, sont pourtant un et le même. Cela signifie que le fondement de l'unité que nous avons, que nous sommes appelés à avoir, est le même fondement d'unité qui existe entre le Père et le Fils, où il y a des expressions et des fonctions uniques au sein du corps de Christ, mais où il y a une égalité entre les personnes. En d'autres termes, nous avons tous cela en commun. Ce que chaque croyant, chaque personne qui a invoqué le nom du Seigneur a en commun, c'est que nous nous tenons tous au pied de la croix. Que vous et moi, peu importe d'où nous venons, peu importe notre expérience, nous étions tous morts dans nos péchés et nos fautes. Mais nous avons été rendus vivants ensemble en Jésus-Christ. C'est ce que chaque croyant partage. C'est une unité qui est enracinée dans l'amour. C'est une unité qui est partagée dans sa nature, réunissant les nombreuses parties et expressions différentes du corps unique de Christ. L'unité et non l'uniformité. La dernière chose sur laquelle je tiens absolument à attirer votre attention est le verset 24. Au verset 24, Jésus prie et dit, « Père, je veux que là où je suis ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Remarquez comment Jésus commence sa prière, « Je veux ». Ces mots ont une grande signification. Il signifie que Jésus aspire à l'accomplissement de toutes choses. Son grand désir est que son peuple soit rassemblé auprès de lui et soit avec lui au ciel. Jésus aspire à l'accomplissement de toutes choses dans le ciel. Il aspire à ce que nous soyons avec lui face à face. Ensuite, il dit, « Je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. » Pourquoi ? Afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Les gens me demandent tout le temps, « Harrison, à quoi ressemblera le ciel ?» Je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Non, mais qu'allons-nous faire ? Nous y serons pour toujours. Qu'est-ce qui occupera notre attention ? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose avec certitude. Une chose que nous ferons, c'est contempler la gloire de Jésus. Cette pensée me dépasse complètement. Elle dépasse mon entendement. Elle m'obsède. Le fait que nous allons voir Jésus face à face. Nous allons voir les cicatrices sur ses mains, son côté et ses pieds. Nous allons voir les cicatrices sur son front causées par la couronne d'épines. Il sera le seul au ciel à avoir des cicatrices. Pour toujours, cela nous rappellera ce qu'il a fait pour nous et nous allons le voir face à face. Nous allons regarder dans ses yeux de feu, ses yeux d'amour et de compassion qui brûlent si profondément pour nous. Aujourd'hui, nous avons un aperçu de sa gloire, mais c'est comme si nous regardions à travers un verre sombre. Mais un jour viendra où le voile sera retiré et nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Nous allons contempler sa gloire. Et cette gloire sera si profonde, si belle, si vaste et si captivante qu'elle retiendra notre attention pour l'éternité. Pour conclure cette matinée, permettez-moi de lire quelques versets sur le ciel, sur le fait de voir notre Sauveur. Jean, notre auteur, a également écrit les mots suivants en Apocalypse 21. Versets 1 à 5, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. J'aime cette promesse. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Le mot « nouvelle » est un infinitif. Cela signifie qu'elles sont nouvelles et qu'elles restent nouvelles. Demain est encore nouveau et le jour d'après est encore nouveau. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Versets 22-23, Jean dit, « Je ne vis pas de temple dans la ville. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Nous contemplerons sa gloire. Passons maintenant à la page suivante, Apocalypse 22:3-5. Jean poursuit en disant, « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage. Et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles.
J'aime beaucoup ces versets tirés du livre de l'Apocalypse. Cela peut sembler un peu morbide, mais ça ne l'est pas. Quasiment tous les jours, je passe du temps à réfléchir à la brièveté de la vie. Je passe du temps à penser au paradis et à ce que ce sera d'être avec Jésus. Il me reste encore un peu de chemin à parcourir, mais cette vie passe si vite. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, si vous n'avez pas accepté le salut qu'il vous offre si généreusement par l'intermédiaire de son Fils Jésus, vous devez vous en occuper dès aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ, mon ami, car il semble qu'il suffise de cligner des yeux pour qu'une autre décennie se soit écoulée. Hier, quelqu'un est venu me voir découragé parce que plusieurs de ses amis avaient quitté cette vie. Eh bien, il prend de l'âge et je pourrais dire la même chose. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont quitté cette vie. La vie est courte, l'éternité est longue, le ciel est réel, l'enfer est brûlant. Donnez votre vie à Christ aujourd'hui.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.